de l'organisation Stella qui travaille à supporter les femmes et les hommes qui gagnent leur vie avec l'industrie du sexe. Alors, rebonjour, j'ai eu une panne de courant tout à l'heure, Sandra.
Oui, tout à fait. Toute l'électricité est partie, mais on est de retour. Désolée pour ça.
Bon, alors donc, je pense que la question que je vous posais tantôt, c'était la suivante. Comment est-ce qu'on pourrait organiser dans un cadre légal l'industrie du sexe au Canada, au Québec?
Oui, donc c'est une excellente question. C'est exactement le genre de question qu'il faut qu'on se pose. Puis je suis contente, j'ai entendu quelques personnes avant là, qui parlaient qu'ils étaient en faveur potentiellement de décriminaliser le travail du sexe. Puis j'entends bien les inquiétudes de la personne qui vient de parler aussi, comme quoi ce serait pas suffisant non plus pour tout régler. Puis c'est ce qu'on admet aussi, que la décriminalisation, c'est une première étape, mais il y a d'autres choses aussi qu'il faut faire pour réduire la violence. Là, ce sera pas automatique que du jour au lendemain, il y a zéro violence, mais ça va être un gros pas en avant. Donc nous, ce qu'on milite pour, c'est la décriminalisation. C'est très différent de la légalisation. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on va enlever toutes les lois dans le code criminel qui parlent de travail du sexe et que ça devienne un enjeu de travail. Donc, on voit, est-ce que les normes du travail ont quelque chose à dire là-dessus, la CSST, qu'on laisse au travail du sexe le soin de trouver des modèles qui fonctionnent pour elles, qui peuvent être très diversifiés aussi selon les besoins de chaque type de travail dans l'industrie du sexe. La raison pour laquelle on ne veut pas ce qu'on appelle la légalisation, ça c'est ce qu'on a fait avec le cannabis aussi, c'est de dire qu'il y a une toute petite partie qui est légale si elle répond à plein de critères, puis tout le reste reste criminalisé. Donc ça, on trouve que c'est un système justement qui crée essentiellement un système à deux vitesses où on a une partie légale, mais on a une partie qui reste encore criminalisée, et ça vulnérabilise beaucoup à ce moment-là les personnes qui ne sont pas capables de rentrer dans le cadre légal. Donc la décriminalisation, en fait, ce que ça donnerait, c'est que ça permettrait à toutes sortes de façons de travailler dans l'industrie de se créer. Puis ça permettrait au travail du sexe d'avoir un droit de travailler. Parce qu'en ce moment, même si on dit parfois qu'on a criminalisé le client, mais décriminalisé la travailleuse, c'est pas la réalité. Les lois actuelles, ce qu'elles disent, c'est que tout est un acte criminel, qu'on n'a pas le droit de travailler en tant que travailleuse du sexe. C'est simplement qu'on dit qu'on ne nous donne pas toujours des charges criminelles à nous directement, parce qu'on nous voit comme des victimes. Mais les policiers ont comme mandat d'éliminer le travail du sexe. La loi a comme objectif d'éliminer les travailleurs du sexe. Donc, ce qu'on a besoin, en fait, c'est de créer des lois qui partent plutôt de l'objectif de nous protéger, de nous donner accès à des droits, puis de réduire la violence.
Alors, exemple, vous donnez l'exemple. Une travailleuse ou un travailleur du sexe pourrait avoir du chômage, l'assurance-emploi,
oui.
toutes les formes d'assurance ou toutes les protections sociales qui viendraient avec ce travail-là. C'est ce que vous voulez dire?
Oui, absolument. Donc, c'est le genre de choses qui sont vraiment importantes, parce que, vous savez, imaginez quand notre revenu, on ne peut pas le déclarer adéquatement, qu'on ne peut pas avoir accès à ces protections-là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on tombe enceinte? Bien, tout à coup, on perd notre revenu, on n'a plus rien, et ça nous rend très, très vulnérables à de la violence. Donc, la violence que les travailleurs du sexe ont vécue, ça peut arriver parfois au travail, parce que des agresseurs vont nous cibler, mais ça peut arriver dans notre vie personnelle aussi, parce qu'on se retrouve dans des situations où on est vulnérable, puis que ça permet à des gens de nous cibler. Donc, tout ce qu'on parle au niveau de la violence conjugale, que les travailleurs du sexe peuvent se retrouver ciblés, parce que c'est possible qu'on soit plus dépendante économiquement de nos conjoints et qu'on n'ait pas là, les mêmes recours que le reste des personnes. Même une travailleuse du sexe actuellement qui essaie d'aller faire une demande pour l'aide sociale, parfois parce qu'elle veut arrêter de travailler, par exemple, mais souvent elle va être refusée, puis on va lui dire, mais non, t'es travailleuse du sexe, puis donc t'as pas accès à l'aide sociale. Donc on doit toujours se retrouver à naviguer des choses très, très complexes, puis ça crée beaucoup de barrières pour se créer une stabilité dans nos vies. Puis évidemment, c'est pas vrai que tous les travailleurs du sexe font beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui vivent dans la pauvreté, et ça nous éloigne beaucoup là, des protections sociales qu'on a pour les familles pauvres en général, surtout les mères qui ont des enfants.
OK, mais ça peut gagner combien? Tantôt, on parlait d'au-delà de 100 000 $. Quelqu'un qui est bien structuré, qui est bien organisé, qui a une bonne clientèle, peut aller chercher peut-être 100 000 $ par année. On nous a déjà dit que les femmes qui dansent dans les clubs de danseuses nues peuvent avoir des revenus quand même assez importants. Mais en moyenne, ça peut gagner combien de prostituées?
Ben, je vous dirais qu'il n'y a pas une moyenne, non? Il y a vraiment toutes sortes de façons de travailler dans l'industrie qui sont très, très différentes. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines personnes dans l'industrie qui font en effet là, beaucoup d'argent, puis que 100 000 par année, ça peut être très réaliste comme revenu. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes, que ce soit des mères monoparentales qui s'occupent de leurs enfants à temps plein, mais qui arrivent à travailler un ou deux soirs par semaine, que ce soit des personnes qui sont dans des milieux de l'industrie qui payent beaucoup moins. Donc, on a des personnes qui peuvent être dans de la pauvreté vraiment extrême et qui utilisent le travail du sexe comme un moyen de survie lorsqu'elles peuvent. Comme on a des personnes qui font ça, qui ont un revenu important, je voudrais que la majorité des travailleurs du sexe probablement sont quelque part entre les deux. Uh-huh. Donc, la réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes très, très riches dans l'industrie du sexe. C'est beaucoup plus des femmes qui cherchent à vraiment payer des factures de base puis à survivre un peu comme tout le monde.
Beaucoup de femmes et d'hommes qui seraient peut-être dépendants à des drogues, à l'alcool.
C'est une partie en fait là, de personnes dans l'industrie qui consomment, parce qu'on peut comprendre aussi que quand quelqu'un a besoin de consommer des drogues, ben on a besoin de l'argent pour la consommer cette drogue-là. Donc le travail du sexe peut être une façon. Pour toute personne en fait qui n'a pas la capacité d'avoir un emploi de 9 à 5 très très stable, le travail du sexe peut devenir une option intéressante. C'est pour ça que notamment il y a beaucoup de femmes dans l'industrie qui sont des femmes en situation de handicap. Qui n'ont pas la capacité de savoir à chaque matin est-ce qu'elles peuvent aller travailler ou non, puis mais que parfois elles ont des moments où elles se sentent bien puis qu'elles peuvent travailler, ben le travail du sexe devient une option intéressante. Et ça, c'est un autre aspect aussi qu'il faut s'assurer que dans notre société, on a des options intéressantes pour tout le monde. Parce que c'est sûr qu'il y en a des personnes qui vont vers le travail du sexe par dépit d'options, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'autres choix, parce que c'est soit la pauvreté ou le travail du sexe. Donc, il faut aussi travailler de ce côté-là, de donner des options multiples là, à tout le monde. Puis, donc, tous les efforts dans la société qui luttent contre la pauvreté en général ont un effet aussi bénéfique pour les travailleurs du sexe. Puis, l'autre aspect important, là, outre l'argent, puis tout ça, c'est vraiment l'aspect de la violence qu'on peut vivre. Et pour ça, ultimement, ce qu'on a besoin, c'est que la société en général arrête d'envoyer des messages aux agresseurs potentiels que s'ils ont envie de cibler une femme, de choisir une travailleuse du sexe. Donc ça passe par les messages dans les médias, ça passe aussi par la façon que les policiers répondent à la violence envers les travailleuses du sexe, puis ce sentiment-là que beaucoup d'hommes ont, que s'ils s'attaquent à une travailleuse du sexe, ils vont s'en tirer, puis ils iront pas en prison, puis ils seront pas arrêtés, puis il y aura pas de conséquences.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
À bientôt. Alors, c'est toujours un discours très articulé. L'organisation Stella, du côté de Montréal, là où sont concentrés les travailleurs du sexe, mais tu sais, on ne joue pas à l'autruche, il y en a partout au Québec de ça. Là.